Alléluia. Je crois que tout le monde est bien lessivé. Hein? Parce que l'air de rien, on a soulevé des petites choses, mais ce n'était pas des petites choses qu'on a soulevées. Hein? Le petit caillou, c'était... C'était pas un caillou aussi petit que ça. Et là, on est très fatigué. C'est parce que c'est... Notre vie sur la terre, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est fatigant. C'est très fatigant. Mais on essaye d'être... de vivre joyeusement, de toute façon. Et quand on fait des week-ends, des retraites et tout ça, on se tourne... Voilà, on se dit, allez, je vais prendre sur moi, je vais essayer de faire monter mon cœur à la surface, mon intellect agent à la surface.
On voit le visage de Jésus qui est juste là. Regardez, c'est bon.
Donc bref, mais... Bref, on est très, très, très fatigué. Et dans notre panier, sans arrêt, dans notre panier, on accumule sans arrêt des mouvements. Alors, à la fin de la journée, si vous regardez bien, il y a peut-être 2 à 3 000 mouvements. Et si vous calculez, un jour, on pourrait... fait partie un jour des exercices spirituels, on essaie de calculer en fin de journée combien on a fait d'actes purement spirituels. Ordinairement, ça ne dépasse pas 4 ou 5. Et c'est pour ça, je pense, qu'on est si fatigué. Parce que vivre une vie psy, c'est épuisant. L'enfant de l'homme n'est pas fait pour avoir une vie psy. On n'a pas du tout été créé par Dieu pour avoir une vie psy. Dans la sagesse créatrice de Dieu, la vie psy s'est réservée aux bêtes. Et puis c'est pour ça que, quelque part, il faut quand même, à un moment donné, essayer de se dire, bon, allez, on va essayer déjà 3-4 fois dans la journée, quand on y pense, il ne faut pas forcer. Monter à la surface, un petit peu au-dessus du niveau de la mer, du mammouth, vous voyez. C'est ça qu'on a essayé de faire, n'est-ce pas? Voilà, ben j'espère que ça ne vous a pas trop fatigué. Hein, parce que... c'est fatigant aussi pour une autre raison, c'est parce que du coup, ça prend les... Comme vous avez pu le constater, surtout quand vous vous retrouvez tout seul, ça prend les formes d'un combat. D'un combat. Vous luttez. C'est d'une lutte. Et c'est d'une lutte contre le mal. D'une lutte contre le mouvement. Tout mouvement est quelque part le signe d'un péché gravissime dans notre vie. Et comme il y a 1 000 à 2 000 mouvements par jour, vous voyez bien qu'on en rajoute des couches sans arrêt. Voilà. Donc le Seigneur, il nous dit, écoutez, vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là. Et comme ça revêt la forme, vous vous retrouvez tout seul dans votre fauteuil, dans votre lit, dans votre siège, dans votre lecture, méditation et tout ça. Et puis, vous dites, voilà, il faut quand même que je lutte. Alors, non, ça c'est pas bien ça. Ça prend donc la forme d'un combat contre le mal. Et ça, c'est pas bien. Parce que la vie spirituelle n'est pas un combat contre le mal. Alors, je vais combattre mes dérives négatives du sentiment de culpabilité, je vais lutter contre les mouvements qui montrent que je suis complètement submergé par les dérives négatives du sentiment de culpabilité, de la conscience de culpabilité, mécanisme de défense, cristallisation tique, somatisation. Enfin bref, vous avez la liste des 50 manifestations du péché mortel dans notre vie. Ce ne sont que des manifestations. Et donc, on a donc bien compris qu'il faut faire les quatre pardons. Ça, au moins, on aura retenu ça, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien de faire ça. Mais en même temps, il ne faut pas faire, à mon avis, il ne faut pas faire l'erreur. À force de faire des agapés, psychospirituels, prototherapie, marianothérapie, pneumato, machin truc, bon. Et donc, il faut... Moi, c'est un petit peu ça que j'aurais voulu, sur quoi j'aurais voulu vous laisser, avec le fait qu'on ait mis notre cœur dans la simplicité angélique, dans l'enfance, dans la transparence, en fait, tout à fait joyeuse et spontanée de la cinquième demeure, hein, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce qu'à mon avis, il faut essayer de retenir, parce que c'est quand même 3 jours de suite, on prend donc un pli, hein, vraiment, hein, c'est ça. Allez, je vais lutter, je vais changer, je vais dans les mouvements, papa, demander pardon, je vais tirer avec la mitrailleuse lourde, puis après sur mon péché, puis après sur les racines, et puis après sur tout le yeter hara. Et puis derrière tout ça, bien sûr, quand je me retrouve tout seul, il y a le démon. Donc il va falloir en plus que je me bagarre contre le démon. Oh, que c'est pénible. C'est très très fatigant. Et bien la vie spirituelle ne consiste pas justement à regarder le démon. Si vous êtes sans arrêt à lutter contre le démon, contre le mal, contre le péché, contre les mouvements, et bien vous êtes foutus. Donc, bien sûr, il y a ça. On est tout à fait d'accord qu'il y a toute une complexité à l'intérieur de nous qui fait qu'on est triste à mourir, qu'on est sans arrêt dans une passion de fuite, sans arrêt on se barre, sans arrêt, enfin on est vraiment des tarés, c'est vrai, bon, ça c'est vraiment, on peut pas nous faire confiance, c'est impossible. Alors, on peut faire des mécanismes de défense aussi, non, tout le monde peut me faire confiance, mais c'est évident que quelqu'un qui dit ça, c'est précisément ceux à qui on peut pas faire confiance. On peut pas nous faire confiance. C'est impossible. Et donc, et prenant un petit peu la mesure de notre union avec Dieu dans la cinquième demeure, dans la grâce, on va comprendre le message de Dieu, le message du Père, le message de Jésus. Le message de Jésus, il dit quoi? Il dit, écoutez, regardez Dieu. C'est Dieu qu'il faut regarder. Et sans arrêt, vous voyez, quelquefois on a des bouffées de tristesse invincibles. On a envie de partir comme un dératé, comme un démon à qui tous les exorcistes sont en train d'arroser d'eau bénite. Ils ont brûlé, on part en dératé, c'est pas possible. On sait plus, c'est trop dur. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de lutter contre le mal. C'est une très grave erreur. C'est une des formes de l'orgueil. Donc, il ne faut pas lutter contre le démon. Il ne faut pas lutter contre le mal. On n'a pas à lutter contre l'athémisme. Mais on va toujours regarder Dieu. On va regarder Dieu. Dieu est là. Et je te regarde. Et on va répéter ça. C'est ça les raccourcis de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Quelquefois, on est lourd, hein. Alors, je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, c'est Dieu que je regarde, c'est vers Dieu que je... C'est Dieu, c'est vers Dieu que je vais, c'est en Dieu, c'est Dieu que je veux connaître, c'est Dieu que j'aime, c'est Dieu que je contemple, c'est Dieu que... Ma vie, c'est Dieu. Je ne vais pas faire une session pour être débarrassé de mes problèmes. Parce que mes problèmes, c'est justement que je ne regarde pas Dieu. Donc c'est tout simple. Donc je vais regarder Dieu, je vais dire, voilà, vous savez, hein, c'est quand même beau la sainte face. Au fond de nous, il y a le caractère du baptême, et dans le caractère du baptême, il y a le Verbe. la vie divine, le visage de Dieu, il y a la présence de Dieu. Je regarde Dieu, c'est toi que je regarde, c'est toi que je veux voir. On peut chanter d'ailleurs aussi, on peut chanter. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. Seigneur, je veux te voir. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, quand il y aura l'avertissement, hein, c'est ça qu'on fera. Parce que, au lieu de faire 2000 mouvements dans la corbeille du métapsychisme, eh bien, on fera 3000 mouvements d'amour, de regard simple sur Dieu. On va prononcer avec les lèvres les mots de l'amour de Dieu. Et c'est Dieu que je veux voir. Ah, si tu me laissais voir Dieu. Ah, si je pouvais voir Dieu. Si je pouvais voir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez vu le Saint-Esprit, parce que non. Le Saint-Esprit qui se balade. Je veux voir le Saint-Esprit. Sinon, si on fait toujours ce genre de combat spirituel, ne vous inquiétez pas, ça va se terminer très mal. Tandis que si on regarde Jésus, si on regarde en Jésus Dieu, si on regarde en l'Immaculé le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'au-delà de son unité sponsale avec l'Esprit Saint, et à travers cet au-delà de l'unité sponsale de Marie et de l'Esprit Saint, on pénètre dans l'Esprit Saint et on regarde Dieu. On regarde la paternité, on regarde l'époux, on regarde Dieu, on regarde je veux voir Dieu. Hein? Et ça, ce sont les actes qui nous sont demandés. Parce que si on ne fait pas oraison, c'est tout simple. C'est parce qu'on est continuellement envahi par des mouvements qui viennent du psychisme, qui viennent du sentiment de culpabilité. On ne se sent pas bien, donc voilà, on va faire la leçon à tout le monde et tout ça. Hein? On va lutter contre Marc, on va dire que des choses vachement bien sur Jésus. Et en faisant ça, on va faire 2000 mouvements et pas un seul acte spirituel pour voir Dieu. Et c'est ça le message de Jésus. L'union simple, le regard, le simple regard. Voilà. Par exemple, cette nuit, je suis sûr que ceux qui ont participé aux prières de la nuit, c'est magnifique de prier la nuit. Parce que bon, c'est un service qu'on peut rendre quand même au ciel, hein. Tandis que les hommes qui sont complètement impuissants et en repos, bon, sont en disponibilité quand même pour recevoir quelques gouttes de la présence lumineuse de Dieu. C'est vrai, alors, on le fait et c'est très bien. C'est très bien, c'est très très bien. Mais c'est quand même un combat. Et c'est bien qu'après, vous remarquerez quand même, j'espère, que c'est pas facile. Quand vous vous retrouvez tout seul, c'est dur. Vous pouvez très bien avoir une des bouffées très très mauvaise, négative. Hein? C'est pas vrai? Voilà. Alors quand vous avez des bouffées négatives, vite sortez, faites un grand mouvement et prononcez cette phrase, ce raccourci, c'est Dieu que je veux voir. Je veux voir Dieu. Le démon, il nous fait peur. Parce qu'on fait des mouvements, on demande pardon pour les péchés, on y renonce. Et on apporte la délivrance. Et donc on désarme un petit peu le démon. Donc le démon, il dit, ah bon, t'as fait ça, bon, mais maintenant à nous. Quoi. Et du coup, notre vie, c'est ça. Je voulais noter ça avec vous. Hein? Attention, faites attention. Le centre de gravité de la vie spirituelle, c'est sûrement pas la lutte contre le mal. C'est pas la lutte contre l'athéisme, c'est pas la lutte contre les francs-maçons, c'est pas la lutte contre les gens qui sont trompés par les idéologies, mal éduqués, etc. Par contre, ce qui nous est demandé, si vraiment on veut aider tous ces gens-là, il faut vraiment s'installer, si je puis dire, se laisser installer par Dieu, par le bon Dieu, par le ciel, dans la cinquième demeure. Et alors, à chaque fois qu'on a un regard vers Dieu, à chaque fois, tous les hommes, sans exception, reçoivent comme une espèce d'élévation et un désir de regarder vers Dieu. Et c'est ça, c'est le principal de la vie. Principal du combat spirituel, donc c'est poser son regard sur Dieu. Et il faut répéter ça cette nuit, vous allez peut-être faire, tu vois, avant de m'endormir, je vais dire, allez, 500 fois, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Voir les yeux que sans fin je cherche, les tiens. Je garde au fond de moi, je veux te revoir, je veux te contempler, je veux découvrir ta lumière, je veux me laisser emporter, voir beaucoup plus profondément où tu es, qui tu es, comment tu es. Voilà, donc c'est une espèce de voilà, c'est un et c'est ça qu'il faut faire. Là, ça, si vous faites ça, vous verrez que le gros, la grosse charge va partir. Voilà, je voulais pas vous laisser partir sans dire ça, hein. Hein?
C'est beau.
Oui.
C'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Alors attention, parce que, vous voyez, regardez, on a regardé cette histoire du démon, de l'antichrist. C'est pas drôle, hein, ce qu'on a fait, hein. Je peux vous dire, c'est pas drôle, hein. Les tachyons. Vraiment, c'est loin d'être drôle. Hein. Et les enjeux sont tellement considérables qu'on peut évidemment dire, sans aucunement, je suis sûr de ne pas me tromper, si on met ses doigts là-dedans, on est dévoré par Satan. Les sujets que nous avons donc abordés sont des sujets beaux, trop difficile pour un enfant de l'homme. Salut. C'est beaucoup, beaucoup trop difficile. C'est beaucoup trop lourd. Nous, on est des petits. On est des tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Bon, d'accord, on en parle quand même, parce qu'on ne veut pas mourir idiot. Mais je ne pense pas que ce soit à nous de renverser, si je puis dire, la vapeur. L'accès désormais, hein, l'accès à l'entrée, c'est ça que le prophète Daniel, l'ange Gabriel a dit au prophète Daniel, l'accès à l'entrée dans la coupe du Bereshit, c'est-à-dire avant l'existence du temps, est ouverte. Jusqu'à maintenant, les affidés de ceux qui n'aiment, qui veulent pas voir Dieu, Satan, Lucifer et les affidés, leur champ d'intervention se limitait à notre univers. Et donc depuis quelques jours, le champ d'action déborde l'univers. Je traverse les domaines de l'exercice et même de la proto-anastase. Bon, ça y est, vous avez... Vous vous rendez compte que Dieu avant, c'est pas avant d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de temps, donc c'est en même temps, si je puis dire, dès l'instant qu'il rentre dans son union hypostatique, c'est-à-dire son amour substantiel. L'union hypostatique, c'est une fabrication d'amour, hein, substantiel. C'est pas un amour ressenti, c'est un amour substantiel. C'est ça l'union hypostatique. Donc, se saisit de ce qu'il y a de plus petit dans le composé spirituel de la matière, l'état qui en est des... Voilà, très bien. Et ça, c'est avec ça, donc, qu'il établit la sainteté, l'intouchabilité de, le sacré, l'intouchabilité éternelle de Dieu. Hein? C'est ça, finalement. Donc, on y rentre, et nous, on dit dans la Bible, voilà, Bereshit, Bara, Elohim, At, Shamaim, ou At, Aretz, c'est-à-dire, bon, dans ce Bereshit, dans cette coupe, cette présence de l'amour substantiel de Dieu, dans la lumière, ben, la sainteté de Dieu vient l'embrasser. La vie intérieure de Dieu vient ici remonter dans une surabondance pratiquement sans limite. L'amour substantiel de Dieu vient s'y exprimer pour toujours comme une espèce d'impératif de l'existence de l'être. Enfin bref, il y a les cinq splendeurs de la matière qui, elle, est capable donc de... Et Dieu, évidemment, quand il va créer, il va, si je puis dire, se perdre dans la perfection qu'il a en lui-même. Et il crée du coup le monde angélique. Quand Dieu se perd complètement dans la perfection qu'il y a en lui-même, ça crée un ange. Mais vous avez le nombre d'anges comme ça qu'il crée. Donc c'est donc des myriades et des myriades et des myriades. Et chaque ange, c'est une perfection totale de Dieu. C'est donc aujourd'hui, il a fait des anges gardiens. On n'en parle pas trop parce que c'est un dimanche. Voilà, donc dans les liturgies, on va parler, mais il faut savoir ce qu'un ange gardien, c'est quoi? C'est que simplement quand Dieu donc, va me créer, voilà, dans la chambre nuptiale de la paternité de Dieu, à partir de rien, à partir de son Bereshit, et à partir de sa sainteté, et à partir de son amour substantiel, voilà, à partir donc de son corps mystique aussi vivant, entier, total, eh bien, il va me créer, il va prendre tout cet amour, tout ce mouvement éternel d'amour d'avant la création du monde, tout le mouvement éternel d'amour, il va le concentrer, il va se concentrer dans quelque chose de minuscule. C'est lui qui, dans son acte d'amour, ce mouvement d'amour éternel, concentre ce mouvement d'amour éternel dans quelque chose de tout petit et il crée à partir de cette sainteté du Bereshit, il me crée. Voilà, ça on le sait bien. C'est quelqu'un qui a vu Dieu une fois dans sa vie, il sait très bien qu'il ne vient pas de la fécondation de l'ovocyte et du spermatozoïde. Il vient du Bereshit, qui est bien avant Adam et Ève. Bon, bien sûr, il se manifeste, ça se manifeste quand même dans l'expression d'un oui d'amour, d'une liberté qui est absolument parfaite. Parce que la différence entre Dieu et nous quand on est petit, c'est qu'on a la même liberté. La liberté du petit, la nôtre, et la liberté de Dieu sont exactement la même liberté. On est aussi libre que Dieu, dans le premier instant. Par contre, les actes d'amour, hein, là, et c'est les actes de lumière, ça c'est autre chose. Les qualités qu'on a, c'est pas pareil. Mais la liberté, oui, la lucidité, la liberté, ça, c'est à l'égal avec Dieu. C'est pour ça qu'on a une très grande nostalgie, c'est évident. Le péché originel nous a un peu éloigné de tout ça. Et on veut voir Dieu, on veut retrouver tout ça. Mais dès lors qu'on découvre aujourd'hui, dans cette espèce de tunnel de 738 km, l'existence du fait que la matière, une très grosse partie de la matière de notre univers, circule dans un temps non spatial et dans un espace intemporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'heure pour le dragon, pour l'antichrist, de pouvoir utiliser cette force, parce que dès lors que vous avez accès, vous pouvez l'utiliser. Et donc nous, les tout petits, on peut le prendre conscience, savoir ce qui va se passer, mais pas lutter contre. Si vous luttez contre, il y en a un qui est beaucoup plus fort que vous, et donc il va vous happez, mais alors, d'un seul coup, au moment où vous n'y attendez pas. Oui, c'est pas sympa ce que je vous dis. Mais je vous préviens, parce qu'il ne faut pas faire les apprentis sorciers, je dis. Parce qu'on est toujours là, les Lancelots, etc., les Don Quichotte, tout ça, attends, je vais convertir, je vais leur expliquer, ils vont découvrir que ça y est, ben, voilà, leur athéisme c'est idiot, c'est quand même, voilà, attends, doucement qu'il dit. À partir du moment où tu découvres le Bereshit, toute parole prononcée est une parole inutile. Hein. Même des gens très 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 exercés pour le combat, les saint Antoine, c'est habitué contre les démons. Si attends, on se frotte pas à ce démon des derniers temps, hein. Faut pas. Hein. Donc faut comprendre, d'accord. Comprendre, d'accord. Comprendre la foi. Comprendre que la Sainte Écriture, lorsqu'elle nous dit que la toute puissance d'amour de Dieu, d'une délicatesse infinie. Tu ne peux pas imaginer une plus grande délicatesse. Lorsqu'elle crée, Bon, elle prend, elle s'unit à une matière qui va, du coup, après la création, faire qu'il y a l'espace, le temps, parce que s'il y a bien regardé ce que disait Moïse, si le temps finalement est créé, la première finalité du temps et de l'espace qui est créé, notre univers, c'est pour que le démon n'ait pas sa place dans le Bereshit. Donc il va être repoussé dans l'au-delà de notre univers. Tous les démons vont être précipités donc, dans notre univers, dans l'espace et dans le temps. C'est la première finalité de la création du temps, parce que les anges qui sont créés disent non, pas tous. Et du coup, ils sont rejetés dans notre univers. Donc c'est leur domaine. Mais à la fin des temps, à cause du Shikutsim et Shomem, eh bien, il y a une autorisation qui fait qu'ils peuvent s'approcher d'un lieu, d'un spirituel, enfin d'un lieu divin, auquel ils n'ont aucun droit d'accès. Hein, le Saint des Saints, donc, du Bereshit. Ils ont un droit d'accès grâce à cet Akion, vous voyez. Ils ne vont pas s'en priver. Alors, évidemment, on pourrait faire des études en disant, voilà, comment ils vont faire. Bon, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre ange, nous dit, écoutez, c'est pas très compliqué, nous, on aime Dieu, et on fait sa volonté d'amour éternel. On veut voir le mouvement éternel d'amour de Dieu, et on accepte d'être avec ce mouvement éternel d'amour de Dieu, on accepte de découvrir pour l'éternité la lumière qui est Dieu lui-même. Donc ça, j'espère que ça, c'est bien de retenir ça. C'est bien de retenir ça. Il y a une angoisse, hein, voilà, je veux dire par là, il y a une angoisse quand même. Hein. C'est une découverte géniale, hein, mais c'est une découverte géniale. C'est évident que c'est une découverte géniale. Donc, elle est la preuve, si je peux dire, patente de l'existence de Dieu et de la création. Quoi, hein. Donc c'est quand même quelque chose. Mais l'utilisation qu'on peut en faire, c'est pas pareil. Alors nous, bien sûr, troisièmement, on est quand même, si on aime Dieu, hein, si on veut voir Dieu, si on cherche non pas à parler aux autres, aux uns et aux autres, convertir, convaincre celui-ci, convaincre celui-là, le sauver par nos paroles absolument admirables, etc. Si on abandonne ce mode de vie, hein, qui est la grâce donc périphérique, la grâce actuelle, pour rentrer dans la grâce sanctifiante, là, pour rentrer donc dans la sainte terre, hein, de la vie. Alors à ce moment-là, on dit oui, et on rentre, mais avec une vitesse donc finalement spectaculaire, parce que maintenant, on est au temps de la vitesse spectaculaire. Donc c'est vrai, à cause de cette histoire de Takion et tout ça, les transformations des demeures de surnaturelles, hein, de la vision de Dieu, vont aller évidemment beaucoup plus vite. On va faire des ascensions spectaculaires dans les demeures de l'union transformante. Puisque du coup, on a non seulement le sens de l'existence de Dieu, mais aussi le sens de sa lumière, et aussi le sens donc, de l'au-delà de la résurrection, dans la mise en place du corps spirituel. Hein. Donc, alors là, ça va très vite à ce moment-là. Très, 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 très vite. Et on dit, avec ça, on prend possession, puisque Dieu nous a donné Jésus, puisque Dieu nous a donné l'Immaculé, puisque Dieu nous a donné l'unité de lumière divine indivisible, de l'épouser du ciel et de la terre. Il nous l'a donné, c'est à notre disposition. Et ben, du coup, avec ça, on rentre tout de suite dans une manière très différente, mais finalement très, très, très sympa, de voir Dieu, de regarder vers Dieu, de poser un simple regard vers Dieu, de nous habituer à faire durer ce simple regard vers Dieu. Et du coup, en faisant ça, on arrive très très vite finalement à la cinquième demeure. Vous avez remarqué ce qui était là cette nuit, il y a eu un passage d'environ 45 secondes en cinquième demeure. C'était très vite. Hein. Bon. C'était très net. Hein. C'est la première fois dans les trois jours quand il y a eu un passage à la cinquième demeure. Donc merci Seigneur, bravo, c'est grâce à Dieu, c'est bien, on veut voir Dieu. Ben, c'est bien. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous êtes là et puis c'est suspendu. C'est plus simplement la paix, Mais c'est plus seulement le simple regard, c'est complètement suspendu, on est pris. C'est pas du tout l'équivalent du repos, hein, pas du tout, ça n'a rien à voir. Hein. L'équivalent du repos, c'est plutôt la quatrième demeure. Voilà. Mais là, c'est très net, hein, cette nuit, à la fin de la messe, là. Et donc, quand on atteint cette cinquième demeure, une fois qu'on l'a atteint, une fois on peut l'atteindre, il n'y a pas de cause diminuante, hein, dans la grâce. Donc, on peut la retrouver quand on veut, à condition de vouloir, de désirer voir Dieu. C'est Dieu que je veux voir. Je ne veux voir rien d'autre que Dieu. Ne voir que Dieu. Je veux regarder Jésus, oui, oui, mais dans Jésus, je ne veux voir dans Jésus que Dieu. Alors à ce moment-là, je deviens petit roi fraternel de l'univers. J'ai commencé justement, c'est ça, c'était cette histoire de découverte de tachyonique, du corps originel, du Bereshit, de l'Immaculée Conception, de l'au-delà de l'unité spensale de Marie et Joseph dans mon corps originel, et du corps spirituel venu d'en haut, et les flux, le reflux, pour que l'alpha et l'oméga se conjoignent. Donc si je suis comme ça, je retrouve le petit état pour lequel Dieu m'a choisi, il me regarde comme Dieu. Dieu me regarde comme Dieu. Je suis le Fils. Je suis son Fils. Parce que je suis tellement perdu dans l'union hypostatique déchirée de Jésus que le Père ne voit que Dieu en moi. Il ne voit plus un être humain. Il voit un petit. Et du coup, c'est là, il y a une royauté, une espèce de présence à tout ce qui existe dans la reprise et dans la victoire sur le mal. On est le petit roi fraternel de l'univers. Et donc, on doit prendre, et c'est vrai, de temps en temps, il ne faut pas y passer son temps, mais au moins, une fois qu'on regarde Dieu, qu'on s'engloutit en Dieu, qu'on passe son temps à regarder, à se plonger, à pénétrer, à s'engloutir dans cette vision de lumière, de ce qui est à l'intérieur, de l'intérieur vivifiant, de l'intérieur de Dieu. Et bon, et puis quand je mets Dieu, on peut mettre tous les attributs divins, hein, donc... Voilà, à force de faire ça, voilà, c'est ça l'oraison, c'est ça la spiritualité de Sainte-Thérèse de Jésus, la spiritualité angélique. Voilà, ça m'établit comme roi fraternel de l'univers. Et donc, les cinq dernières minutes, je prends autorité. Mais c'est accidentel, vous voyez. Je ne vais pas me forcer la tête avec ça. Je prends autorité, j'ai tout pouvoir. Donc je dis, voilà, bon, très bien, ben voilà, pas de problème. Et bien les tachyons, par exemple. Tous les tachyons qui sont produits, enfin, qui sont mis à jour, en fait.
Qu'est-ce que c'est, excusez-moi.
Pardon, je m'excuse, mais c'était les deux premiers jours, on n'a parlé que de ça. C'était 40 premières et 40 heures. Donc les tachyons, c'est les particules élémentaires de matière qu'on vient de découvrir il y a 6 jours. Voilà, comme je l'explique là depuis tout à l'heure, depuis un quart d'heure, j'arrête pas d'expliquer ça. Donc voilà, donc le tachyon, c'est comme l'existence de la matière avant le Big Bang, d'accord? Mais il n'y a pas de Big Bang, donc ça prouve que le Big Bang n'a jamais existé, ça va? Ni évolutionnisme, ni Einstein, ni la relativité générale, ni la relativité, tout ça balayé, il n'y a plus rien. On en est absolument certain maintenant, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc voilà, le petit roi fraternel de l'univers, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Bien, comme le petit poussé, il se précipite dans le tunnel de 738 km, hein, et puis il court comme ça, hein, avec son ange gardien, il court, et il demande à son ange gardien d'aller en Italie, et lui il prend ça à Genève, ils courent ensemble à la vitesse de la lumière du Christ, et ils s'embrassent, tout ça, et tous les tachyons qui sont mis à jour dans l'univers, c'est pour nous, c'est à moi, c'est pas à vous. Et je prends tout cet tachyon et je les mets et je les donne à Jésus. Je les donne pour le règne du Sacré-Cœur. Je donne à Marie comme un petit enfant, je les donne. Voilà, j'ai autorité, c'est moi. Ils sont dans la bagnole, ils sont en train de dire « Ah, des tachyons, on va faire des super trucs pour l'antique, pour le démon, tout ça. » Et vous arrivez avec l'ange, qui est le char angélique, vous voyez, bon, du petit enfant, du petit roi fraternel de l'univers, vous dépassez la bagnole, vous lui faites une queue de poisson, vous lui remettez le flingue en disant « Moi, j'ai la foi, d'accord ?» Vous prenez tous les tachyons et hop, je dis « C'est pas pour vous. C'est pas pour l'univers double. C'est pas pour l'univers double. Ce n'est pas pour l'univers double. L'univers double, c'est le monde dans notre univers. Il y a un, deux, dans les universités universités de physique, on explique ce que c'est que l'univers double. Hein. Bon, en théologie, on va dire l'univers double, c'est cette présence sous-jacente des fréquences des puissances intermédiaires, quoi. Bon, bref, c'est le monde des démons, quoi, mais avec le support cosmique correspondant. Hein. Voilà. Donc il c'est très possible, bien sûr, c'est tout à fait possible, même très facile, de prendre, de demander aux hommes de dire, voilà, on va utiliser ça pour alimenter, non pas notre univers à nous, mais alimenter l'univers double. Alors nous, on n'est pas d'accord. Parce que qui est-ce qui commande? C'est le prince ou c'est le petit roi? C'est le petit roi. Donc vous voyez, petit roi fraternel, c'est nous. Alors je reviens dans ma première cellule, 9 mois avant la naissance, et là je retrouve mon pouvoir de petit enfant. Et dis-moi, c'est Dieu que je veux. Moi, je veux voir Dieu, moi. Alors, et je dis à mon ange, et mon ange, un gardien, et voilà, puis avec Jésus, puis puisque c'est l'union hypostatique de Jésus, là, et je prends le pouvoir, donc l'union hypostatique de Jésus qui se saisit des, ben, qui saisit de la de cette matière spirituelle d'amour, hein, qui va, voilà, qui vous comprenez, qu'est-ce que c'est qu'un tachyon? Donc je vais quand même répondre à votre question, parce que si vous avez un neutrino, hein, donc une particule de matière la plus petite, hein, un neutrino, s'il va, voilà ici le mur, hein, le mur du son de la lumière, voilà. La vitesse de la lumière, voilà, elle est là, d'accord? Donc vous avez une petite particule, un neutrino, un hadron, un, bon, peu importe à quoi, bon. S'il va à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, ben vous voyez son mouvement. S'il va à la même vitesse que la lumière, vous ne le voyez pas circuler, mais vous voyez, comme il a traversé un mur, vous voyez le trou qu'il a fait. Donc vous savez qu'il existe. Mais s'il va plus vite que la vitesse de la lumière, comme il ne peut pas remonter dans le temps, eh bien là, ici, dans le trou qu'il fait, il fait un trou dans tous les espaces, dans toutes les galaxies. Il fait comme ça, en 1/100 millième de seconde, 1 milliardième de seconde, puisqu'il va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ici, là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il part là-bas au fin fond de l'univers, et il revient, et il fait comme ça. Il fait des milliards, des milliards, des milliards, et des milliards, et des milliards, et des milliards de fois le balayement de tous les espaces. En un, je dis même pas en 1 milliardième de seconde, dans un instant. Donc ça veut dire qu'il est matériellement présent, physiquement et corporellement à tout. On appelle ça les particules du temps non spatial. Voilà. Donc, et réciproquement, hein, donc si jamais vous soufflez dessus, je parle du bon Dieu, si vous soufflez dessus, voilà, vous pouvez aussi dire, voilà, il est ici, et bon, il circule un petit peu quand même, mais il est capable, il rentre aussi dans un espace intemporel, c'est-à-dire il est capable de se retrouver dans l'alpha et aussi l'oméga. C'est quand même ces tachyons qui ont permis au corps du Christ de faire le passage de l'exercice à l'anastasis. À l'anastase avec son corps. Hein? Quand Jésus est ressuscité. Bon, attendez, vous avez entendu parler que Jésus est ressuscité, oui Quand Jésus est ressuscité, la fulguration divine de sa résurrection, c'est une création nouvelle comme Dieu. C'est plus que la création de l'univers qui s'est produite. Alors, à la prière de Marie, Marie a porté ça, et donc il y a eu l'instant de la résurrection. Mais donc il a habité tachyoniquement tous les espaces et tous les temps. Avec, corporellement, avec son corps de résurrection, il a traversé tout, corporellement. Tous les espaces, et c'est comme ça qu'il... Bon, c'est le travail justement de sainteté de la Sainte Vierge, de Marie, de prendre ça dans elle et de faire rentrer cette espèce de pèlerinage de tous les temps et de tous les lieux dans son cœur eucharistique et du coup de faire rentrer dans cet espace-là qui est le sien, parce que c'est la reine quand même, hein, donc de faire passer donc le sacrifice, l'union hypostatique déchirée de Jésus sur la croix dans tous les instants eucharistiques. Parce que la fin du monde, ça c'est elle qui crée la présence réelle du sacrifice eucharistique de Jésus, corporellement parlant, jusqu'à la fin du monde, même si Jésus est ressuscité là. C'est un phénomène tachyonique, ça. mais transsubstantié. Je ne cherchais pas à comprendre. mais en tout cas, quand Jésus ressuscite, Egerté, il est ressuscité, hein, il est là, il habite. Il est passé par tous les éléments de matière, même les plus petits. Il les a traversés dans leur substance. Il a donné une nouvelle signification au moindre élément de matière de notre univers et au moindre instant de notre univers jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'oméga. Voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Saint-Pierre dit « Anastaste » et l'ange aussi. Il est ressuscité, c'est plus Egerté. Alors il y a une deuxième résurrection qui est simultanée en fait. C'est que Jésus, corporellement, traverse le péras de notre univers, toutes les limites du temps et du lieu, rentre corporellement avec sa résurrection dans le Bereshit où il va créer le monde dans les origines, et il rentre bien sûr dans l'hypostase. Et il rentre aussi dans l'accomplissement final. Et ça, c'est tout à fait complètement hors de du cosmos. Il a traversé le cosmos. Il a créé, donc, dans sa résurrection, un espace de gloire corporelle qui est infiniment plus grand, bien sûr, que notre univers. Ça s'appelle l'anastase. C'est pas infini, hein. C'est pas infini, c'est limité, hein. Vous le saviez, ça, quand même, j'espère. Jésus, quand il ressuscite, il sort. Ben, il sort pas. Il habite l'univers, il donne une détermination nouvelle. Et il rentre dans le diaphane intérieur de la gloire. Et voilà, et corporellement, il rentre dans sa propre hypostase à cause de la blessure, justement, à cause de l'union hypostatique déchirée. Il va même au-delà de l'anastase. Pour aller dans le Père. Pour voir le Père. Je veux voir Dieu. Je veux voir mon Père, c'est mon Père. Jésus, il dit ça, il dit, voilà, moi. Il dit, mais quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que tu vas faire ça, quand tu vas revenir en Israël, ta. Jésus, il dit, il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Alors il est parti au monde des vivants. Moi, c'est mon Père, je veux voir. Bon, l'ange gardien. Parce que tout ça, c'est pour revenir toujours à l'ange gardien. Donc l'ange gardien, il est présent avant la création du monde, il est présent dans le Bereshit. D'accord ? Il porte le corps spirituel, tachyonique, de l'union hypostatique du Verbe de Dieu, qui assume la puissance créatrice dans tous les temps, tous les lieux, et même dans l'au-delà des temps et des lieux. D'accord ? Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer, mais il faut le contempler. Mais comme on n'est pas des contemplatifs, on a du mal à voir Dieu là-dedans. On regarde le côté technologique. Nous, on est des disciples du dragon rouge, cette tête. Et donc, on regarde avec un langage positiviste, scientifique. Et du coup, on ne regarde plus Dieu là-dedans. Mais c'est Dieu qu'il faut voir. Je veux voir Dieu. Dans la cinquième demeure, on peut voir Dieu. Voilà. Et quand Dieu nous crée, tout de suite, dans le sein de Marie, là, pendant 14 jours, on est présent, on est dans un état tachyonique, hein. Mais on est aussi, ça c'est le point de vue de la matière spirituelle, mais on est aussi dans un état de liberté égale à celui de Dieu. On est également dans un moment éprouvé, pas ressenti, mais éprouvé parfaitement, lucidement, d'amour total. Hein. On est ce mouvement éternel d'amour concentré dans une petite goutte de sang. On accepte d'être ce mouvement éternel d'amour de Dieu d'avant tous les temps, concentré dans une petite goutte de sang. Voilà ce que je suis. Et j'ai besoin de me nourrir de l'amour éternel de Dieu. Et du Père. J'ai besoin, donc je veux voir le Père, je veux me nourrir de sa volonté éternelle d'amour. Et je dis oui, je suis prêt à dire oui, ma liberté dans la chair, dans la petitesse, dans la toute petitesse, dans la minusculesse, spirituelle, libre, etc., très très très, 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 très agile, très lumineuse, très subtile, et impassible aussi. Parce que là, à ce niveau-là, on ne souffre pas. Elle est capable de traverser, justement, toutes les œuvres de Dieu. Voilà. Et comme on est en même temps dans le temps et en même temps dans le Bereshit, d'accord ? On est en même temps dans le temps et en même temps dans l'arrière-source des temps, n'est-ce pas ? On est en même temps dans les deux. On est en même temps dans la profondeur du temps, c'est-à-dire l'union hypostatique de Jésus, déchirée de Jésus sur la croix. Donc 1, 2 et 3. Les trois ensemble, on est là. C'est ça le truc tachyonique. Corporellement, on est capable de se balader. C'est formidable ce qu'on a vécu hein, pendant 3 mois. Hein. C'était génial, hein, je peux vous dire. C'est vrai. Toc, 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 un milliard d'habitudes, sans arrêt. Et pourtant, notre âme s'épanouissait dans un oui d'amour, de lumière, de liberté. Et on était les enfants de Dieu. Et il y a un quatrième encore dans lequel on allait. Parce qu'à l'intérieur de Dieu, j'ai dit oui, bien sûr, j'ai dit oui à l'éternité de ma création. Mais c'est pour ça donc qu'il y a l'ange. Parce que l'ange, il n'y a pas un petit enfant de Dieu qui est semblable à un autre. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un ange qui n'ait pas une différence spécifique, une différence d'espèce avec un autre ange. Eh bien, notre ange gardien, il a du point de vue de l'intériorité de lumière sans limite angélique, contemplative, il a exactement la même odeur, la même couleur, la même splendeur, le même parfum que le nôtre quand on va arriver à l'accomplissement final, dans l'au-delà de la résurrection. Donc notre ange gardien, il nous est donné dès le départ pour nous accompagner jusqu'à l'accomplissement final pour lequel on a dit oui au départ, avec lucidité. Il n'y a personne qui peut vous ressembler autant que votre ange gardien, sauf que vous, au ciel, vous serez minuscule, mais en communion avec l'ange gardien qui, lui, est dans une grandeur intérieure de lumière, de splendeur, d'odeur, de parfum, de puissance créatrice d'éternité, etc. Voilà. On est associé, parce qu'on est idem in numero, idem, pas idem in species, mais on est quasiment idem in numero dans une luminée dei, dans la lumière de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'ange gardien. L'ange gardien, le nom, c'est pour ça que vous connaissez le nom de votre ange gardien. Parce que quand vous connaissez le nom de votre ange gardien, eh ben, vous savez que, voilà, vous dites, allez avec l'ange gardien, c'est vers, je regarde Dieu. Et puis, de temps en temps, je fais le petit roi de fraternité de l'univers, je rentre dans le cyclotron, allez, je circule, et tous ces trucs-là, c'est pour le règne du Sacré-Cœur. Faut pas chercher à comprendre mieux au niveau scientifique, ça, c'est pas la peine. Ça sert à rien, c'est pas scientifique, c'est pas le truc scientifique qui compte. C'est que ça n'appartient pas à Satan. C'est nous qui commandons. Donc Satan n'a aucun pouvoir tant qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans la cinquième demeure. Aucun. Voilà. Donc on prend autorité, on rentre, voilà, on court dans le cyclotron, ça, enfin dans le tunnel. Mais pas seulement dans le tunnel, parce qu'on rentre dans le tunnel. Et à partir de là, vous touchez du concret, hein, vous touchez à une masse de tachyon, hein, et comme vous touchez une masse de tachyon spirituellement, vous pouvez le prendre, puisque vous appartenez au Bereshit, et à la grâce accomplie surnaturelle de la résurrection. Donc vous avez un pouvoir avec les deux mains de le prendre avec votre ange, d'accord, et de le faire passer dans la gloire de la vision béatifique avec votre ange hein, aussi. Voilà. Donc vous le prenez, et puis vous donnez à Marie, donnez au cœur sacré de Jésus. Ah, c'est pour le règne du Sacré-Cœur. Et tchut. Comment ça se fait que ça ne marche pas? On n'arrive pas à le donner à l'univers double. Comment ça se fait que c'est pas vrai? On n'arrive pas à le faire. Eh oui, parce qu'il y a des petits piou-piou. Quand on avait commencé à faire ça, c'était quoi? C'était en 2008, je crois. 11 septembre 2008, n'est-ce pas? Hein, qu'ils ont fait le collisionnaire 11 septembre. Donc, bon, on était prévenus avant, donc on est rentré dans le cyclotron, la nuit. Et puis, on a pris. Et puis, tous les hadrons, le boson de Bex, etc., tout ce qu'il mettait, et qu'il voulait prendre, justement, pour lui donner un comportement qui le dirigeait vers l'univers double. Nous, on a pris possession du boson de Bex, l'antihadron, tout ça, on a tout pris. Hop, on l'a arraché, et on a donné un autre comportement, on l'a rempli. De l'amour éternel surnaturel de Jésus crucifié, glorifié du Père et du Saint-Esprit. Il dit, on a pris ça et on a donné au Saint-Esprit. Ils ont arrêté, vous vous rappelez qu'ils ont arrêté immédiatement. Ils ont arrêté immédiatement le bombardement. Vous vous rappelez de ça ou pas?
Oui.
Ils ont dit, oui, on a arrêté parce qu'il y avait une fuite dans le circuit de refroidissement. Hein, et voilà.
On ne sait pas ce que c'est.
Si, ils ont dit, on a fait, je suis désolé, il y a une fuite dans le circuit de refroidissement, mais on va redémarrer dans un mois. Mais n'importe quel crétin sait qu'il faut 7 mois. Une fois qu'on a réparé le circuit de refroidissement, il faut 7 mois pour obtenir la température qui convient. Donc vous savez que c'est un mensonge. Il y en a quelqu'un là, qui a été posé la question au directeur du LEP, au président, en disant, qu'est-ce que c'est que votre histoire là, le circuit de refroidissement, vous nous balancez des bosons de Begs, etc., ça fait des champs scalaires, etc., vous bazardez les champs psychotroniques de notre espace, de notre univers, tout. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez arrêté? Quelle est la vraie raison? Et il a répondu, il a été obligé d'avouer, hein. Il a été obligé d'avouer, il a dit, parce que le boson de Begs n'avait pas le comportement qu'on voulait lui donner. Il l'a dit. Donc ils ont arrêté tout, parce que le but c'était de donner à Satan, à l'univers double, aux démons de l'air, et aux puissances de l'air. Oh, bah non, qu'est-ce qu'on a fait, hein? On s'est réveillé la nuit, on a dit, on a dit ça, non, c'est pas pour vous, c'est pour nous, et on met dans le Sacré-Cœur. Et voilà, bon, ça suffit, hein. Top, ils ont tout bloqué. Voilà, donc quand vous avez des nouvelles comme ça, eh bien rigolez un peu. Vous êtes petit roi fraternel de l'univers, vous prenez possession. Non, désolé, on fait la queue de poisson, toc, on prend, c'est à nous, c'est les douanes célestes, hein, donc on arrive, et ce petit roi fraternel, c'est nous. On prend, on donne à Jésus, on donne au Sacré-Cœur de Jésus. Pas plus, hein. Et puis après, on retourne vite pour voir Dieu. D'accord? Voilà. Donc voilà, l'ange gardien, c'est quand même quelque chose de très extraordinaire, parce que c'est pas seulement qu'il nous attend dans notre épanouissement, notre accomplissement, dans l'accomplissement glorieux de Dieu lui-même, dans ses créatures, hein, avec la même gloire. C'est extraordinaire de savoir que je suis un petit point de gloire et que mon ange n'a pas de point de gloire puisqu'il n'y a pas de particule de matière en lui, mais que s'il est une intériorité purement immatérielle de gloire, sans limite, qui a la même degré d'amour et de gloire et de lumière et de vision de Dieu que moi. Mais c'est un espace sans limite intérieur qui fait sa substance angélique. Alors du coup, il dit, mon ange, moi je veux bien de temps en temps m'associer avec toi. Comme ça, je me sentirais encore plus petit. Et puis, je serais tout à fait moi-même, parce que on est soi-même dans son acte pur. On est soi-même dans sa cause finale. On est soi-même dans sa cause originelle, et puis on est dans sa cause finale. Et du point de vue du corps, on est soi-même dans l'unité. Et là, l'unité des deux, du corps originel et du corps spirituel venu d'en haut. Voilà, et quand on conjoint les deux, l'ange est là. On peut rentrer dans une unité totale d'amour, de lumière et de substance avec lui. Et avec lui, on rigole. Hein. Et il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on se nourrisse son amour, la volonté éternelle d'amour du Père, que ce soit notre nourriture. La nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce qu'on a envie. Moi, je vais faire quelque chose de vachement bien. Voilà. Parce qu'au jour donc, de l'ouverture du cinquième sceau, je vais faire quelque chose de vachement bien. Ça, vous le savez, les prophéties, hein, tout cela, ils seront absorbés. Hein. Le méchôme, c'est ça. Hein. Le méchôme, c'est tous ceux qui voudront faire leur maximum pour faire le bien. Tout ce qu'ils vont faire, ça va servir pour l'Antichrist. Tout. Tous leurs efforts, même avec la prière et tout, hein. C'est ça, en hébreu, méchôme. Méchôme, c'est une désolation, ça veut dire désolation métaphysique. Ça veut dire qu'il y a un renversement. Avant le méchôme, tu faisais le bien de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de toutes tes forces, ça aboutit, c'est quand même à faire avancer la paix vers le Seigneur quand même. Et Jésus, il dit quand arrivera ce qui a été dit par le prophète Daniel, alors à partir de ce moment-là, et jusqu'à la fin du monde, il y aura le méchant. Désolation métaphysique, ça veut dire qu'il y a une orientation métaphysique qui va s'inverser. Donc si vous utilisez tous les éléments cosmiques d'amour et de lumière, de toutes les forces de la création, ce sera forcément au service du diable, à un moment donné. Voilà. Donc il faudra passer de la cinquième à la sixième demeure en disant « Non, 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 moi je fais ce petit roi fraternel de l'univers, cette petite, et je suis une victime éternelle d'amour, c'est le mouvement éternel d'amour de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui compte. Voilà. Voilà, ça c'est comme ça, on aura fait un petit récapitulé, quoi. Hein? De ce qu'on a. J'espère que c'est pas trop. Bon. Quand vous n'arrivez pas à dormir la nuit, parce que c'est quand même lourd, glissez-vous un petit peu là sur le bord du lit, mettez vos genoux par terre. Et puis effondrez-vous, et puis plongez-vous pour voir Dieu comme ça. Dit, comme vous disiez, vous, hein, Sacré-Cœur de Jésus, ben, le battement du cœur de Jésus, c'est oui, mais plus que le battement du cœur de Jésus, qui me dit je t'aime, c'est que soit à travers ça, je puisse m'enfoncer pour voir Dieu. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. C'est Dieu que je veux voir. Parce que de plus en plus, on aura ces difficultés la nuit. Hein. Voilà. Maintenant, il y a encore une autre chose que je voulais vous... parce que bon, on est donc les rois, les petits rois fraternels de l'univers, on est les prêtres de l'univers, les médiateurs, grâce à l'existence angélique et celle de Jésus. Donc on est les petits prêtres de l'univers et les prêtres du Père. Mais on est aussi prophète, prêtre, prophète, c'est roi. Alors, c'est quoi un prophète? Prophète, c'est qu'il sait. Un prophète, c'est quelqu'un qui sait dans quel temps il est. Voilà, il sait dans quel temps il est. Alors, on est. Bon, on voit, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, un vrai prophète comme Daniel, vous voyez, ben, son bras, il augmente. Hein. Chaque jour. Maintenant, il fait 18 mètres son bras en Ouzbékistan. Parce qu'il montre le temps. Il montre le temps de Dieu. Il montre le temps de Dieu. Et là, on est dans quel temps, nous? On est dans le temps, donc vous le savez bien. Donc, on se prépare à ouvrir le cinquième sceau de l'Apocalypse. Ce n'est pas nous, d'ailleurs, qui allons ouvrir le cinquième sceau de l'Apocalypse. Évidemment que non. Mais on s'y dispose et on s'y prépare. Parce qu'on veut être pris. Parce que les autres qui ne s'y préparent pas, qui font ah pa la 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 pa la 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 la, eh ben ils seront pas pris, ils seront surpris. Et c'est sûr ça. Donc voilà. Donc je vais revenir sur un sujet qui me paraît spécialement drôle, parce qu'on est quand même dans un temps très 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 dur. Hein. Pour Dieu, Dieu, la délicatesse de Dieu est vraiment éventrée. Hein. Et on s'aperçoit que même les meilleurs cathos, les meilleurs catholiques s'en fichent complètement de Dieu. Cette espèce d'éventration de son amour délicat paternel, ça ne les touche absolument pas. Ça leur fait rien. Ça leur fait aussi le froid que la feuille morte qui tombe dans le jardin du voisin. Il y a un phénomène hein? C'est ça, Chikusi, mes chemins. Et ça a commencé comment? Alors, vous le savez déjà, mais je vais vous noter ça là, il y a un mois. Je disais quand même, bien sûr que, bon, d'accord, ce que dit la Sainte Vierge à Bernadette à Lourdes, voilà, on rentre dans la chambre nuptiale de la création de Dieu, dans le Saint des Saints du corps originel, hein. Moi, j'ai été Immaculée Conception dans ce Saint des Saints quand Dieu m'a créé à partir de l'union hypostatique déchirée de Jésus. Et aussitôt, étant la moitié sponsale avec mon ange de gloire éternelle, ben, j'étais complètement engoncé dans un oui formidable avec le corps originel de ma moitié sponsale, qui avait 12 ans. Il faisait sa bar mitzvah, Joseph, quand Dieu a créé l'Immaculée Conception. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et Saint Joseph, du coup, a été le juste substantiel. S'il était juste à Tzitatos Ikaios, il était ajusté à Dieu, le Père, et ajusté à sa moitié responsable, substantiellement. Substantiellement. Et c'était tellement fort que du coup, le ciel s'est déchiré, et donc l'ange Gabriel est rentré dans le Saint des Saints, le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, c'est-à-dire vraiment le Saint des Saints réservé à Dieu seul. Et donc Jean-Baptiste a été conçu, voilà le premier fruit de l'unité sponsale de Marie et de Joseph. D'accord ? Donc là, elle explique ça à Bernadette à Lourdes. Elle dit, mais c'est justement dans cette chambre nuptiale du corps originel de l'homme, c'est là où Dieu est le plus sensible, le plus délicat, le plus vulnérable. Et c'est là où l'humanité va décider de l'éventrer avec une cruauté plus que infernale, parce que quand ça vient des hommes, ils prennent une cruauté qui dépasse de très loin celle de Lucifer. Et donc, il y a une indifférence totale. Parce qu'on dit, mais d'où c'est venu comme ça ? Effectivement, donc c'est tombé, vous le savez. C'est tombé donc en 2005, hein, bon voilà, 8 mars 2005. Mais c'est pas venu comme ça, parachuté. Ça d'un seul coup, j'écoute si mais quand même. Il y a eu quand même une préparation, il y a eu des choses qui se sont préparées, qui ont préparé ça. Hein? 3 ans et demi avant, 1290 jours avant, c'était les tours jumelles de New York. 3 ans et demi après, c'était le cyclotron qui voulait consacrer toute la matière primordiale et l'antimatière à Satan. À chaque fois, 3 ans et demi, hein, à chaque fois, vous descendez comme ça, vous descendez. D'où vient cette espèce d'escalade extraordinaire d'agression, mais d'une cruauté, mais incroyable contre Dieu en personne. C'est pas contre l'humanité, c'est contre Dieu en personne, d'où ça vient. Alors, donc, vous savez ça, que sans doute... Et je vous dis ça pour que, en espérant que vous ne le répéterez pas.
Surtout le dites.
C'est cette notion de shikutsim meshomem, ça veut dire shikuts, ça veut dire abomination, meshomem, ça veut dire de toutes les désolations. Meshom, c'est la désolation métaphysique en hébreu. Et shikuts, ça veut dire, c'est l'abomination de... C'est quand on abomine Dieu, vraiment, il y a une abomination. Et on veut vraiment éventrer, c'est par l'indifférence, parce que c'est moi ce que je fais qui est bien. Je parle de Jésus, hein. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Et shikutsim meshomem, c'est le comble. Shikutsim, c'est un pluriel. Meshomem, c'est un pluriel. Donc, shikutsim meshomem, dans le prophète Daniel, c'est l'ange Gabriel qui dit shikutsim meshomem, eh bien, c'est le comble de toutes les abominations, avec le comble de toutes les conséquences de dévastation métaphysique, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire ça. Mais tu ne peux pas arriver à shikutsim meshomem dans l'histoire du temps si tu n'as pas fait avant beaucoup de shikutsim meshomem au singulier. Alors, quelle est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'il y a eu un shikutsim meshomem ?
C'est l'histoire de
c'est ce que disait Mère Teresa. Quelle est l'unique source de tout le mal qu'il y a dans le monde et de tout le mal qui rage dans le monde jusqu'à la fin des temps, hein? Trois fois, elle a répondu, c'est les chrétiens communistes sur la main. Pourquoi? Pourquoi un geste aussi amoureux, simple, peut être l'abomination de la désolation? Moi, un jour, un évêque que j'aime beaucoup, il me dit, mais Mère Teresa, elle est tombée sur la tête quand elle a dit ça. Là, elle n'était pas inspirée. Hein. Eh bien, c'est la première fois, en effet, que dans l'Église catholique, l'Église des apôtres, il y a eu un chikutz méchant. Alors, je vous explique un petit peu, si vous voulez. Parce qu'il y a un lien, vous voyez. Il faut savoir toujours faire les liens. Comme ça, quand on coupe, ça perd de sa force, si vous voulez. Ça. Donc, vous verrez les documents de la Sainte Église. C'est le Christ, le Messie, qui a dit à Moïse, quand il s'agira du pain descendu du ciel, du pain du Messie, vous le prendrez à la fin, après la quatrième coupe hein, de la scène, vous le prendrez et vous le partagerez et vous le tremperez et vous donnerez la bouchée. Voilà. Et ce qui était dit, ce que le Messie a expliqué à Moïse, pour la scène, c'est le Seder, je crois que ça s'appelle, hein, la scène juive pendant combien de siècles quand même, voilà. Il y a une première coupe, une deuxième coupe, on chante le Hallel, etc. Et on est debout un moment et on prend dans la main le pain, azim, et un morceau d'agneau. Donc c'est un pain agneau. Mais ça, c'est la troisième mendication, c'est la deuxième mendication. Et on est debout et on communie au pain agneau. Au pain agneau qui représente le Messie. Hein? C'est pour ça que là, on est dans la main. Mais il y a dans le livre des nombres et tout ça, et le Deutéronome et tout. Attention, là, ici, il y a le pain qui est réservé au Messie, après la dernière couche Barakout, après la dernière coupe de bénédiction. Voilà. Et là, si le Messie n'est pas encore revenu, ben, que le père de famille prenne le pain du Messie, et puis il le donne la bouchée. Jésus, avec ses disciples, donne la bouchée à la fin. Il donne la bouchée, parce que Jésus avec ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait comme ça, il prend le pain, il communie au pain agneau, tout ça, tout ce que tu veux, la coupe de bénédiction, la coupe du Messie, la coupe, ben, les quatre coupes, quoi, la coupe du Hallel, et puis arrivé à la fin, ben, il se lève de table, il met un linge à sa ceinture, il se met à genoux, il lave les pieds, parce que les pieds, c'est là où les anges vous portent sur leurs mains pour que vous ne puissiez pas heurter les pierres et que vous puissiez rentrer justement dans l'union hypostatique directement du Verbe de Dieu. Donc il n'y a pas de problème, c'est à cause de ça qu'il lave les pieds. Voilà. Donc, et puis après il se relève, il dit maintenant aimez-vous les uns les autres. Et puis à la fin, ben, il donne la bouchée. Judas est encore là. Et il lui donne la bouchée après avoir lavé les pieds. Il donne la bouchée. C'est normal, attends, Jésus il respecte tous les préceptes de la Torah. Donc de prendre la bouchée, c'est une indication qui date d'Adonai Elohim et qui devait être intangible, qui a été conservée par les apôtres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, vous savez, il y a eu des moments, des persécutions, c'était pas drôle, quelquefois les persécutions. Bon, alors voilà, donc les persécutions, tu n'avais pas le droit d'expliquer le catéchisme infaillible de l'Église, tout ça. Bon, si bien qu'on a eu des messes, des messes dans les. Dans certaines régions, ben, la communion, ben, c'était l'hostie, c'était du pain ou du fromage. Voilà, on appelait ça les margaritos. Donc ceci, mon corps, voilà, c'est les margaritos, c'était du fromage. Ben, évidemment que quand l'Église elle est revenue dans la tradition apostolique, elle dit maintenant on recommence, hein, on revient, s'il vous plaît. Et il y a eu effectivement des moments où on faisait n'importe quoi. Et c'est sur ces textes qui s'appuient. Quelques-uns. On dit, mais Saint Cyril de Jérusalem, puis le Pectorus d'Autun, ben, ils disent quand même, prends dans tes mains. Donc vous voyez bien, c'est une tradition ancestrale. Vous avez mis sur votre papier que c'est à partir du Xe siècle. Pas du tout. Jamais, 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 pas à partir du Xe siècle. Et le texte qu'on attribue à Saint Cyril de Jérusalem, en fait, c'est un texte. C'est malhonnête parce que c'est un texte du patriarche Jean de Jérusalem qui s'était séparé du Saint-Père. Et qui dit, ben, et donc, à chaque fois, quand on se sépare du Saint-Père, et pour bien montrer qu'on se sépare, allez, on revient et on dit, vous communiez sur, vous abandonnez la bouchée. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus fort de toute l'histoire du monde, quand tu communies au verbe de Dieu. Tu ne partages pas le pain agneau. Le partage du pain agneau, dans l'Écriture, dans la Sainte Bible, c'est totalement autre chose, cette communion au pain agneau, que la bouchée du pain descendu du ciel. Je me nourris de l'union hypostatique déchirée de Jésus, hein, et comme la Pentecôte, hein, ça brûle ma langue, le verbe de Dieu. Et il n'y a jamais eu, et à chaque fois que l'Église est intervenue, c'était toujours pour revenir, bien sûr. Donc pendant le Concile Vatican II, le Concile Vatican II a dit, vous pouvez le faire. Et ça, c'est pas vrai. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un concile a engagé son infaillibilité, l'infaillibilité du concile, l'infaillibilité de Pierre, a été engagée, alors qu'avant, on reprenait la discipline, mais ce n'était pas infaillible, ce n'était pas une disposition dogmatique infaillible. Ça n'enlevait pas de l'infaillibilité. Le Concile Vatican II a fait que la communion sur la bouche est devenue donc quelque chose d'infaillible. Jusqu'à la fin du monde, ça veut dire les chrétiens qui ne le feront pas sortiront de l'Église catholique. Donc le Concile Vatican II a engagé l'infaillibilité du Seigneur sur ce point. Et ça fait rien, les Mgr Alfrink, Mgr Schilbeck, enfin vous voyez tous les Monseigneur Villot, etc., tous les gens qui avaient fait leur théologie avec des pasteurs protestants, ils ont dit, oh, c'est de la connerie, alors vite, on fait quand même, on fait comme ça. Monseigneur Villot, surtout, hein. Monseigneur Villot était donc un des grands initiés de la loge de Freiburg, en Allemagne. Donc c'est lui qui était le numéro un de l'Église catholique. Donc c'est lui qui donnait les permissions. Dès que pape Paul VI le voyait, il arrachait ça et il envoyait le papier en disant non, c'est strictement interdit. Quatre fois il l'a fait, ça. Il a fallu, après le concile, vu que il fallait faire ce chicoute spécial, vous comprenez, donc il y avait quand même des indisciplines. Enfin, dans l'ensemble, on ne communiait pas sur la main beaucoup, hein, en 1970. Donc il a convoqué tous les évêques du monde, le pape Paul VI, pour recommencer, c'était très peu de temps, pour recommencer, et uniquement là-dessus. Il dit quand même, le Vatican a engagé son infaillibilité tout de même. Et puis il a sorti Memoriale Domini, donc les cinq raisons graves pour lesquelles on ne peut pas communier à la manée. Alors, à la limite, jusque-là, il n'y a pas de chicoute méchaume, ce sont des frondeurs, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un chicus mechum est intervenu d'un seul coup. C'est que pape Paul VI, il a fait, il a fait une encyclique qui s'appelle Humane Vitae, je crois. Humane Vitae sur la contraception, sur... Et en faisant cette encyclique, c'était tout nouveau, hein, donc... les évêques de France, donc les évêques à la conférence épiscopale du Nouvel Israël... Parce que la France, c'est la filiale de l'Église, c'est le Nouvel Israël, c'est la Jérusalem spirituelle de Marie au milieu de toutes les multitudes, c'est la France. Donc, pour signifier au pape qu'on se détachait, qu'on se divisait vis-à-vis de lui, puisqu'il avait fait Humane Vitae, tu vas voir, je te pisse dessus, et aussitôt après que le pape ait dit, on ne peut pas, une deuxième fois, faire la communion sur la main, la conférence épiscopale française a décidé de le faire, la communion sur la main. Ça veut dire que, et là, ça devient grave. Pourquoi ça devient grave? On a le sens de Dieu, on va comprendre pourquoi c'est grave. C'est parce que c'est un signe, un sacrement, c'est un signe sensible et efficace, de présence réelle. Et le signe de la communion, c'est le signe de l'unité de toute l'Église. Donc quand tu communies, tu reçois la source de l'unité du corps mystique de l'Église tout entière. Et du coup, le Seigneur peut bénir toute l'humanité, rayonner, écarter la providence de Dieu et circule par torrent et la paternité de Dieu aussi, etc. Mais si... Je rentre, et c'est l'instant de la communion, et c'est le lieu de la communion qui a été décidé par la pointe de l'Église catholique, puisque c'est le nouvel Israël de Dieu sur la terre. Ils ont décidé de dire, voilà, nous, on va demander, et on va dire, voilà, on prend la communion comme ça. Et donc, on signifie qu'on rentre dans la division de l'Église, et donc, je mets une brèche dans l'unité, dans l'instant précis et dans le lieu précis de la communion, qui est la source de toutes les lumières, de toutes les providences, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tous les obstacles à l'arrogance du mal sur la terre. J'ai brisé, voyez, j'ai brisé dans l'instant et dans le lieu réservé à Dieu seul, la présence réelle. Ça, on appelle ça, dès que vous introduisez dans le lieu et l'instant qui appartient à Dieu seul pour faire une unité éternelle et temporelle, vous rentrez dans un shikutz meshom. C'est pas le shikutz meshom, mais donc, mais, vous voyez, donc c'est pas parce qu'on communique sur la main que c'est grave, c'est parce que c'est un signe de rupture du corps mystique de l'Église tout entière, et donc je signifie un sacrement, c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Donc je réalise, en faisant cela, je réalise ce que je signifie, à savoir je brise l'unité du corps mystique de l'Église tout entière, eucharistique, et du cœur eucharistique de Jésus, dans sa source. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, voilà, tous les champs morphogénétiques surnaturels eucharistiques du monde ont été brisés. Et de là, vous comptez à chaque fois 3 ans et demi, et vous arrivez finalement assez vite à la naissance de l'Antichrist, puis après vous arrivez à New York, puis après vous arrivez au cyclotron, puis après vous arrivez...
En passant par l'avortement, par exemple, en France.
Oui, non, mais Mère Teresa, elle n'a pas dit, voilà, le mal le plus grand dans le monde, c'est l'avortement. Elle n'a pas dit ça.
Oui,
elle a dit, c'est la source de tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est ça. Elle a dit, elle a expliqué, c'est vrai, l'Angleterre a voté ses premières lois trois mois après, et la France 2 ans après. Et elle dit, c'était impossible. Les satans et tout ça, les francs-maçons, tout ce que tu veux, enfin... Les hommes de ce monde, c'était impossible qu'ils votent une loi sur l'avortement s'il n'y avait pas eu shikutz meshom. La permission de Dieu n'aurait pas été donnée sur l'avortement. Dieu n'aurait pas donné permission à Satan de détruire 80 milliards d'êtres humains à partir de ce jour-là. 80 milliards d'avortements depuis le shikutz meshom de la communion. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'Église. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Église en 2000 ans, il n'y a jamais eu de shikutz meshom. Ce jour-là, il y a eu shikutz meshom. Alors, du coup, après, c'est parti. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas pour vous faire déprimer. Hein. C'est pas pour vous faire déprimer. Mais l'Eucharistie, c'est vraiment la source de l'unité du corps mystique de Jésus. Voilà. Donc, là encore, il y a quelque chose qui... C'est pour ça que moi, personnellement, je vous donne la communion par intinction à cause de ça. Parce que d'abord, ça nous unit avec les orthodoxes. Donc ça rétablit une unité formidable. Hein. Donc ça, c'est sûr que il ne reste plus beaucoup de temps. Évidemment que dès que les orthodoxes et les catholiques vont retrouver les principes... Donc de l'unité eucharistique, ça va aller très vite. Hein. Le règne du Sacré-Cœur, du coup, pourra se répandre dans le monde entier, à partir de la France. Donc il faut sentir... mais est-ce que c'est nous qui allons changer cette coutume? Non, on ne va pas changer cette coutume. C'est impossible. Vous n'allez quand même pas... Mais, alors, on va faire comment? On va... C'est pas une abomination contre Dieu qui s'est produite là, c'est une abomination contre le corps mystique, eucharistique de Jésus. Voilà, donc la manière de réparer ça, c'est de contempler Dieu, le Verbe de Dieu, le Verbe d'amour de Dieu, dans le sacrifice parfait, son union hypostatique. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une hostie, quand vous voyez un tabernacle, vous rentrez dans le tabernacle spirituellement, par la foi. Et vous rentrez dans le tabernacle, vous rentrez dans le Saint-Sixième Sacrement, vous engloutissez dedans et vous êtes présent à tous les Saint-Sixième Sacrements du monde entier, sur toute la terre. Il y a une seule hostie qui va. Et du coup, vous êtes dans l'union hypostatique du Cyrène, de Jésus qui va parcourir, pas seulement de manière tachyonique, mais qui va pour tous les espaces futurs, tous les instants, jusqu'aux noces de l'agneau. Et c'est là où vous jouez un rôle très très grand. Parce que c'est par la foi de l'Église que ce sacrifice eucharistique, présent dans tous les tabernacles du monde, il nous a laissé la présence réelle de sa passion, de sa croix hein, dans l'hostie. Dans les tabernacles, c'est pas la présence de Jésus ressuscité. Hein. Dans les tabernacles, c'est la présence de sa passion et de sa croix. Dans les tabernacles, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus sacrifié, c'est Jésus immolé qui est dans les tabernacles du monde. Hein? D'accord?
Répétez, s'il vous plaît, l'erreur qui est sur cette feuille, l'erreur de date. Le 10e siècle, vous disiez.
Oui, non, vous dites à partir de l'an 1000, on a mis les choses au point. Non, c'est dès le départ. Hein. Donc, depuis Moïse.
Erreur de date sur cette feuille, pour ceux qui l'ont.
Non, mais. Pas grave.
Mais il faut le dire, parce que c'est une lettre d'information. Donc il y a une
non, si vous voulez une bonne lettre d'information, vous allez sur catholique.net, au courrier des lecteurs, et vous avez les choses sans erreur. Voilà, donc. Évidemment. Bon, d'accord, vous êtes. Pour se rappeler ça, se rappeler que si on va jusque cette espèce d'indifférence totale d'amour pour mon papa, c'est parce que ça s'origine du point de vue des grâces qui ne sont plus données depuis 1970 et qui fait qu'il n'y a plus cette espèce de vertu, de grâce infuse qui est donnée à tous les chrétiens qui aiment du coup le papa et ça n'est plus donné. Et du coup, grâce à ça, il y a une indifférence complète vis-à-vis de la présence d'amour, de tendresse, de délicatesse de mon papa. Vite, il faut revenir avec Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et puis rentrer à nouveau dans la première cellule. Dans mon oui originel, dans le oui originel de l'Immaculée Conception, dans le oui originel de leur unité sponsale transactuée, telle qu'elle est aujourd'hui, donc glorifiée. Et mettre ça dans mon corps originel, retrouver cette liberté, l'état pur, dans l'unité, c'est l'un, ressens ce sens de l'un, de l'unité lumineuse, vivante. Je m'engloutis dans cette unité lumineuse, vivante. Je m'engloutis, je me consacre, j'appartiens, je suis à cette unité, cette lumière, cette unité, cette indivisibilité de l'unité vivante et lumineuse de l'Église du ciel et de la terre, du Verbe de Dieu assumant toutes les gloires du Père, du Saint-Esprit, dans le miracle des trois éléments. Je m'engloutis dans cette unité, dans cette indivisible unité lumineuse vivante, en reprenant ma capacité originelle de tout petit, avec la capacité originelle de l'Immaculée Conception, qui elle est glorifiée dans la résurrection, c'est sa capacité originelle, sa première cellule. Le moment, ça a duré quoi? Bon, 14 jours, allez, 10 jours. Immaculée Conception, dans le ventre de Anne, sa maman, ça va? Bon, ces 10 jours là. Quand elle est rentrée dans l'Assomption, ces 10 jours là sont passés dans l'anastase. Évidemment, ils sont passés dans l'anastase. Et donc ces 10 jours de l'Immaculée Conception sont passés dans un état anastasique, c'est-à-dire de gloire, de résurrection, dans tous les espaces. Et pas dans tous les temps, puisque c'est tous les espaces. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée dans le monde de la résurrection. Et donc l'état dans lequel elle était, du coup, est à travers l'Eucharistie, avec l'unité eucharistique, nous est donné à nous. Jésus, il dit, donc, quand il est immolé, il dit, voici ma mère, voici l'Immaculée Conception. Donc je reçois cet état de Marie dans son Immaculée Conception, ces 10 premiers jours, dans un état glorieux, eh bien, qui se donne à moi dans mon état donc de sainteté vivante sur la terre. Et c'est comme ça que je réveille avec elle mon oui originel. Et là, je suis là, ici, je veux voir Dieu. Et si écoute mes chaumes, si écoute mes chaumes, tout ça, vous voyez, on passe au travers. pour aboutir au nid de la cinquième, sixième et septième demeure. Voilà, vous avez un résumé. Hein. C'est un petit résumé. Voilà, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.